Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité cyber. Alors aujourd'hui, un épisode sur la BotConf, une conférence qui, comme son nom l'indique partiellement, est dédiée à l'étude des botnets. Aujourd'hui, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Nicolas Ruff.
Bonsoir.
Éric Fraissinet.
Bonsoir.
Et moi-même, Johan Uloa. Alors Eric, tu es l'un des fondateurs de la BotConf ?
Oui, on est une dizaine au départ à avoir lancé l'idée à la fin de l'année 2012. En gros, autour de la communauté botnet.fr, hein, des gens qui se sont réunis petit à petit, qui parlent surtout français, mais il y en a un petit peu de toute la planète, et puis qui échangent sur les botnets, et puis plein d'autres sujets sécu. Alors on se retrouve surtout sur IRC. Et y a une petite équipe au milieu de tout ça qui s'est dit que ce serait sympa d'organiser une conférence sur la lutte contre les botnets, parce que ça semblait un petit peu manquer dans le paysage jusqu'à présent.
D'accord, donc là c'était la deuxième occurrence
Ouais. On avait fait la première à Nantes et la deuxième à Nancy, et toujours à la même période, à peu près les mêmes organisateurs, cette fois-ci un peu plus de participants, une durée un petit peu plus longue cette année, 3 jours au lieu de 2 jours. Hein, la première année c'était assez concentré, mais on était sur notre coup d'essai, on va dire la première fois. Et puis voilà. Sinon en termes de format, ça se ressemblait pas mal entre les deux années, hein, ce qu'on a cherché à organiser, c'est-à-dire à la fois un contenu sélectionné centré sur la lutte contre les botnets, c'est-à-dire leur compréhension et les méthodes de lutte, aussi bien du point de vue de la communauté un petit peu scientifique, hein, du monde universitaire ou du monde plus de l'entreprise, hein, de ceux qui travaillent dans la lutte contre les virus et les différentes formes de botnets. Et puis sur le plan du séquencement, des confs, des présentations de durée variable en fonction de ce qu'ont présenté les gens qui ont proposé des papiers, avec donc des confs d'une heure ou des short talks, des conférences un petit peu plus courtes de 20 à 30 minutes qui en général sont plutôt destinées à des jeunes chercheurs ou des gens qui débutent sur un projet. Et puis les confs un peu plus longues sur les personnes qui travaillent depuis longtemps sur un sujet ou qui ont une expérience professionnelle assez aboutie et dont le papier a convaincu pour faire quelque chose de plus long. Voilà.
Quel public en fait de cette conférence ?
Bah, le public ressemble assez à ce qu'on s'attendait à intéresser, c'est-à-dire à la fois des gens qui travaillent là-dessus dans le monde académique, dans le monde de l'entreprise, aussi bien du côté des équipes sécurité dans certaines entreprises, par exemple chez certains prestataires ou chez certains opérateurs, et puis dans ceux qui fournissent de la sécurité au profit d'autres. Donc quelques services de police. Pas suffisamment encore à mon goût, mais un petit peu plus cette année que l'année dernière, hein, puisque on était une dizaine de policiers par rapport à 3 ou 4 seulement l'année dernière, sur les 200 participants cette année.
D'accord. Alors, quelle est la particularité de cette conférence par rapport aux autres conférences de sécurité ?
Bon, c'est assez simple, hein. L'idée c'est d'avoir un sujet autour duquel tourner les botnets. L'idée c'était d'intéresser des gens un petit peu différents de ce qu'on voit habituellement, parce que beaucoup de ceux qui travaillent sur les virus, ils vont pas dans les confs sécu parce que la plupart de ce qui s'y dit à côté les intéresse pas forcément, ou alors ils vont pas passer 3 jours pour juste échanger pendant 1 ou 2 heures sur les sujets qui les intéressent principalement. Une partie de l'idée, c'était aussi que ceux qui se plongent dans la conférence, on est dans un état d'esprit, on parle à peu près de la même chose pendant les 2-3 jours. Donc ça permet de de se focaliser sur une thématique et de pas sauter du coq à l'âne, donc c'est peut-être plus accessible aussi pour certains participants. Et puis la grosse idée, hein, ce qu'on voulait vraiment faire, c'était faire se rencontrer de façon plus facile des gens qui se rencontrent souvent en ligne, au travers de papier, au travers de tweets, au travers de tout un tas de choses aujourd'hui, mais très rarement physiquement, comme le monde de la sécu plus classique le fait, mais là dédié à cet univers-là. Quand tu fais le tour dans chacun des pays, assez souvent c'est quand même quelques personnes très isolées qui travaillent sur ces sujets-là, mis à part du côté des éditeurs antivirus, hein, mais sinon, en général, c'est souvent une communauté assez éparpillée, on va dire. Et là, il y avait des gens, pour cette année, il y avait un chercheur sud-africain, des sud-coréens, des japonais, quelques américains, pas mal d'européens, évidemment, puisqu'on est quand même une conférence qui se déroule en Europe. Et puis, pas mal de français, finalement, intéressés par ces questions-là. C'était aussi un des objectifs, d'avoir en France une conférence intéressante sur un sujet qui, en tout cas nous semblait important à traiter aujourd'hui. Hein, c'est un des vecteurs principaux des menaces cybercriminelles aujourd'hui. Puis il y a une autre dimension, alors qui n'est pas encore complètement réussie, mais sur laquelle on a encore un peu progressé cette année. C'est pas uniquement une conf technique. Donc, c'est pas nouveau que dans les confs sécu, il n'y a pas que de la technique, mais là, c'est intéressant d'aborder aussi bien, par exemple, les aspects juridiques que techniques autour des botnets. Et puis, une certaine variété aussi, aussi bien des dénis de service que des botnets autour du click fraud, du spam, etc., dans le domaine bancaire, mais aussi sur le plan de la façon dont on s'y intéresse, donc via les noms de domaine, les algorithmes de génération de noms de domaine, par exemple, et l'analyse des données, les traces sur les réseaux, les traces sur les ordinateurs eux-mêmes qui sont infectés, enfin voilà, toutes ces composantes. Donc c'est déjà un univers qui mérite en tant que tel plusieurs jours de conférence, donc ça se justifie pleinement. Alors il existe encore, hein, des conférences sur les virus, mais on avait envie de faire aussi une conférence un peu sur le même modèle que d'autres en termes de visibilité. Que d'autres conférences sécu. Et très souvent, les conférences sur les malwares sont un peu confidentielles, souvent avec un même type de public. Et là, pour le coup, on essaye d'ouvrir un petit peu les choses, de faire quelque chose d'un peu différent par rapport à tout ça. Voilà.
Et tu crois pas que si la communauté est dispersée, c'est qu'il y a très très peu de gens qui travaillent sur le sujet, en fait?
Oui, tout à fait.
Du mal à voir quel est l'intérêt pour une entreprise de financer des gens qui travaillent pour le bien d'Internet, quelque part.
Ouais. Alors, c'est quand même une des formes d'outils principaux aujourd'hui des délinquants sur Internet, de toute forme. Tu auras noté que dans l'agenda, on a parlé aussi bien d'APT de botnet de DDoS, que de botnet de spam, etc. Hein. Donc, on a une définition la plus large possible de ce qu'est un botnet.
De rappeler ce qu'est un botnet.
Alors, notre définition de travail, c'est le système constitué par l'ensemble des machines qui sont infectées par une famille de virus et qui se connectent à un même système de commande et de contrôle. Donc, ça peut prendre des formes assez variées. Et donc, par exemple, tu peux avoir un même virus dans plusieurs versions différentes qui se connecte à un même système de commande et de contrôle, ou plusieurs virus différents parfois qui se connectent à un même système de commande et de contrôle, ou parfois des évolutions d'un peu tout ça. Et ce qui rassemble ces botnets, c'est clairement leurs usages malveillants. Alors, en tant que tel, dans la plupart des pays le virus en tant que tel est une infraction, constitue une infraction. Mais donc ces botnets qu'on étudie, ils ont des vocations malveillantes. Et le deuxième aspect, alors ce qu'on essaie de défendre, c'est un peu une vision systémique de la chose, c'est-à-dire c'est pas uniquement un virus ou uniquement un système de commande et de contrôle, mais c'est aussi la façon dont ils sont propagés. Donc c'est beaucoup les exploit kits aujourd'hui qui sont intéressants, ou d'autres méthodes qui utilisent des exploit kits mais avec différentes stratégies. Et puis c'est les gens qui sont derrière aussi qui peuvent être intéressants. Donc en gros l'attribution, hein, c'est de comprendre qui les développe, qui les déploie et qui les utilise, et puis pourquoi faire.
Alors justement, ouais, un botnet, ça peut servir à quoi pour les attaquants?
À énormément de choses. Beaucoup pour aujourd'hui pour collecter des données sur les machines qui sont infectées. La vision très traditionnelle, c'est le déni de service et le spam. Mais quand même, la collecte de données personnelles ou de données sensibles dans les machines infectées ou dans les réseaux infectés est clairement devenue très importante.
Enfin, quand tu dis clairement, tu te bases sur quelles statistiques?
En termes de variété, il y a une assez faible variété de botnets de DDoS ou de spam, mais il y a une forte variété de botnets qui collectent tout un tas de données dans tout un tas de sens. Je pourrais te sortir des chiffres, hein, si tu veux, mais en termes de...
Bah oui, ça m'intéresse de savoir qui produit des chiffres là-dessus, parce que maintenant, il y a tellement de gens qui font des papiers sur les APT qu'il y a même un compte GitHub qui s'est ouvert pour tous les recenser.
Ouais.
Et bon, globalement, enfin...
Bah, je regarde pas que les APT. Si tu mets de côté les APT, t'as tout le domaine des botnets qui ont simplement pour vocation de collecter des mots de passe, de collecter des informations bancaires, etc. Tout le domaine des RAT plus classiques qui sont pas utilisés que pour des attaques en profondeur, mais juste pour par des délinquants assez basiques. Et là, il y en a toute une tripotée. Il y en a une trentaine de différents. Dont une dizaine ou une douzaine sont couramment utilisées. Ouais, t'as quand même beaucoup d'usages de ce type-là en plus de.
Et actuellement, on voit une forte résurgence, on va dire, de ransomware.
Alors les ransomware, oui, et en fait, ce qui se passe, c'est assez typique le ransomware, c'est que t'en as un qui sort un modèle, donc le CryptoLocker par exemple, et d'autres reproduisent le même modèle. Donc là, t'as pas 50 variétés différentes, t'en as moins d'une dizaine. Hein.
Oui, après, c'est le mode de propagation qui change, mais je veux dire, le ransomware, c'est pas un bot. Enfin, si tu n'as pas vraiment défini ce que c'était qu'un botnet, parce que tu as botté en touche en disant c'est un virus qui se connecte à un point de contrôle.
Alors justement, j'ai pas dit que c'était un virus, c'était l'ensemble constitué par les machines infectées par.
Parce que je veux dire, c'est.
Un virus donné et un système de commande et de contrôle.
Il reste à définir ce que c'est qu'un virus, quoi.
On peut parler de malware.
Un logiciel malveillant.
Oui, voilà, c'est un logiciel malveillant. Je pense qu'on peut dire ça, plutôt que virus.
Parce que typiquement, est-ce que le ransomware rentre dans la définition du botnet, sachant que finalement, c'est souvent un truc standalone que tu récupères en allant sur une page foireuse ou en installant un truc téléchargé depuis une source pas fiable.
Non, c'est pas du tout standalone. Ça se connecte systématiquement à un système de commande, justement.
Ouais, enfin, disons que la clé de chiffrement, quand c'est bien fait, elle est générée sur le poste et envoyée à l'extérieur.
Elle est envoyée vers le système de commande, ouais.
Ouais, mais ce système de commande, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un compte Twitter ou autre. Enfin, à ce moment-là, ouais. tout logiciel qui fait des communications réseau est un botnet. Enfin, tu vois, un navigateur web, c'est un botnet, quoi.
Ben non, puisque c'est pas malveillant. Il n'est pas installé à l'insu de la personne, etc. Non, l'intérêt d'en avoir une vision assez large, c'est que ça permet justement d'explorer tous les modes de commande et d'envisager même toutes les évolutions, puisqu'on l'a vu avec pas mal de oui, on le voit avec pas mal de botnets assez gros qui sont capables d'évoluer. Entre des modes de communication pair à pair, par exemple, et puis de façon dégradée vers des modes de communication HTTP. Quand ils se sont fait démonter par certaines actions policières ou coordonnées. Et peu importe en fait le mode de commande et de contrôle.
Oui, mais enfin, tu vois, je te charge
Problématique
sur la
d'intention.
définition, parce que personne n'a jamais réussi à produire de définition, on va dire, fiable de ce que c'est qu'un virus. Et le problème, c'est que tu as plein tout un tas de domaines de compétences. Alors là, tu parles de botnet, donc tu parles de lutte contre les ransomware. Finalement, c'est un peu la criminalité grand public, si j'ose dire. Après, il y a les APT, qui font aussi l'objet de conférences dédiées. Je pense à la MIRCON de Mandiant, par exemple. Après, enfin, la MIRCON, d'ailleurs, c'est encore un autre sujet que les APT, c'est l'incident response, sur lequel tu as des, ou le forensic, sur lequel tu as des conférences dédiées, comme la DFRWS. Après, effectivement, tu as les confs de malware, enfin, de virus, comme celle de virus bulletin ou des choses comme ça. Est-ce que ça fait du sens, finalement, d'essayer de se spécialiser dans un domaine quand, à la fin, la définition, elle englobe quasiment tous les domaines de la sécurité informatique, quoi.
Bah là justement l'intérêt c'était il se trouve que je fais une thèse sur la lutte contre les botnets, donc j'en ai une vision assez claire aujourd'hui. L'intérêt c'est justement de s'intéresser à tous les aspects et pas uniquement du côté du virus ou pas uniquement du côté des exploit kits ou pas uniquement sous l'angle APT qui est une façon de voir la menace, mais de s'intéresser à l'ensemble de ces systèmes, quelle que soit la forme qu'ils prennent. Et tu retrouves à chaque fois les mêmes choses, et tu arrives à classifier facilement ces choses-là, etc. Enfin, c'est en ça qu'il y a une constance. Et il y a des définitions, hein. Donc dans le CFP, on reprend une définition académique qui correspond assez bien à ça. Du botnet, pas du malware.
Enfin, je t'arrêterai quand même sur un point. Les académiques ne luttent pas contre les botnets.
Bah
Les
si, ils
académiques font des
contribuent.
maths dans leur coin, mais ils n'ont jamais arrêté personne.
Ouais, mais ils contribuent à cette lutte. C'est en ça que c'est intéressant. C'est qu'ils font des travaux qui contribuent à la lutte contre les botnets. Il y a eu des présentations intéressantes là justement au cours de la conférence où même si c'est une vision totalement académique des choses, ça fait beaucoup avancer. Par exemple, sur la classification des virus de botnet, on a fait des progrès grâce à des échanges avec le monde académique.
Mais quand tu dis on, qui a fait, enfin, tu parles de qui?
Bah de nous en particulier, de moi, de mes équipes, par exemple, sur la compréhension des ransomware, on a fait des travaux intéressants de ce côté-là.
D'accord. Parce que si je compare à l'échelle d'Internet, l'impact que peut avoir une action conjointe entre Microsoft et le FBI et on va dire alors, comment trouver un exemple qui ne froisse personne? Une présentation sur un modèle statistique sur un truc qui va dire que voilà, dans 92% des cas, tu arrives à détecter un malware et que tu as quand même 8% de faux positifs et que sur un réseau d'opérateurs, ça t'en fait 10 000 par jour. Je dirais qu'il n'y a pas photo, quoi. L'action Microsoft plus FBI, elle a quand même plus d'impact sur l'écosystème. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, c'est quoi ta question?
C'est pas une question, c'est que bon, j'ai quand même un peu de mal avec les travaux académiques. Ouais.
Ben ouais,
C'est
mais les actions coordonnées en question, justement, il y a certains aspects qui pourraient pas avoir lieu sans une démarche académique.
J'espérais que tu défends les académiques bec et ongles, puisque tu fais une thèse, donc.
Non, mais tout l'intérêt, c'est de faire se rencontrer ces univers. Le rythme de la grosse différence entre le monde académique et par exemple le monde policier ou par exemple ceux qui gèrent la sécurité dans des grands réseaux ou des petits réseaux, c'est l'échelle temporelle. Effectivement, au niveau académique, tu peux te dire tiens, je cherche des résultats pour dans 5 ou 6 ans sur telle approche de cette menace. Là où quand tu cherches à résoudre une enquête, identifier un suspect, parfois il va falloir agir en quelques jours ou en quelques semaines. Mais après, c'est dans l'échange et dans ce qu'on apprend des uns et des autres, la façon de travailler, les approches, qu'on arrive à progresser, quoi. Et sur la classification, justement. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a différentes méthodes de classification qui fonctionnent pas du tout à la même vitesse et laquelle va être la plus efficace en fonction de ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux classer très vite ta menace ou est-ce que tu veux mieux la comprendre? Et si tu veux mieux la comprendre, des fois, il faut accepter de dire, tiens, on va passer un petit peu plus de temps pour faire cette classification. Sinon, tu racontes n'importe quoi, parce que un des grands enjeux qu'on a, nous, c'est, on te parle de, par exemple, de Zeus, les Z-Bots et autres, que beaucoup d'éditeurs antivirus, qui font un travail très important, hein, c'est pas le sujet, mais il y a beaucoup de virus qui sont classifiés Z-Bots, et puis quand tu grattes un petit peu, en fait, tu t'aperçois que ça n'a rien à voir avec Zeus, et ça correspond à d'autres menaces. Et donc, pour faire une enquête et pour attribuer quelque chose à un groupe particulier, bah, nous, on a besoin d'aller parfois un peu plus finement, d'identifier une campagne particulière, par exemple, qui peut être l'œuvre d'un groupe particulier à un instant donné, en utilisant quelque chose qui ressemble beaucoup à un autre virus, mais qui n'est pas du tout la même chose. C'est notre problématique. Et des fois, il y a des différences assez subtiles.
Ouais. Et vous avez déjà réussi à corroborer des résultats de terrain avec des études de similarité. Enfin, en gros, en supposant qu'un jour un gang complet se fasse arrêter, tout le code source se fait saisir, tous les emails, ce qui permet de comprendre en fait les interactions entre les différentes personnes, le moment où ils ont forqué un autre projet, etc. Et ensuite faire de la rétroaction sur la boucle pour essayer de déterminer comment affiner les analyses de malware, par exemple.
Ouais, on manque encore un peu de données de ce côté-là. Et puis un des enjeux, c'est aussi que tout ce qui est issu du monde judiciaire est pas facilement partageable. Donc ça pose pas mal de questions de ce côté-là. Et une des réflexions, c'est justement comment est-ce qu'on peut pousser pour qu'il y ait des infos qui soient partagées, qui viennent de ce côté-là, de l'action. Donc ça, c'est aussi une réflexion.
De la mise en commun de threat intelligence, comme on dit.
Ouais, mais ça pose quand même un certain nombre de questions. Mais c'est clairement vers là qu'on va. C'est-à-dire que j'imagine pas que dans 10 ans, il va falloir qu'il y ait plus d'échanges d'informations et qu'on ait trouvé les bonnes façons de les échanger en préservant les droits des uns et des autres, notamment des personnes mises en cause. Hein, mais pour pouvoir avancer plus vite, quoi. Parce que c'est clair qu'on n'échange pas assez d'informations et on n'est pas assez efficace.
Vous voulez dire deux mots des présentations qui vous ont marqué?
Alors, pour moi, c'est pas facile parce que quand tu organises une conf, tu as le nez dans le guidon sur la conf. Et donc, je vais prendre plaisir dans quelques semaines à re-regarder les vidéos parce qu'on a enregistré la plupart des conférences. Et donc, je t'avouerai que j'ai du mal à dire laquelle m'a le plus intéressé ou marqué, sachant que j'étais concentré sur l'organisation, le timing, etc.
Johan, toi qui as assisté à la conf, tu vas pouvoir nous donner ton ressenti.
Alors, les confs, il y a eu beaucoup de confs qui étaient intéressantes. Je pense par exemple à la conf de la NCA où il y avait un officier en fait qui relatait les problématiques qu'il avait rencontrées pour essayer de mettre de faire tomber un réseau de botnet et il était confronté évidemment à des problèmes politiques. Internet n'a pas de frontières, donc quand la menace vient d'un pays avec lequel tu n'as pas de relation ou pas de bonnes relations politiques, c'est difficile. Donc, il évoquait ces problématiques. Je trouvais que c'était intéressant. Il y a eu une conf aussi où une personne évoquait la nécessité pour les certes d'évoluer. Donc, il parlait de certes 2.0. Il fallait que les certes, selon lui, deviennent plus agiles et par plus agile, il entendait plus agressif. Donc, pour lui, les certes doivent aussi avoir la capacité de répondre en attaquant.
C'est la fameuse sécurité offensive que te vendent tous les prestataires de services maintenant. Tu n'as plus un site web de Presta qui ne te dit pas qu'ils font de la sécurité offensive, de la red team, etc.
Donc, ouais, c'est un sujet, c'est un sujet à part entière. Hein, RootBSD nous a fait une belle conf. Avec un aspect vraiment sympathique et humoristique sur la première partie. Sur la deuxième partie, un tuto sympa sur WinDBG. Une conf derrière intéressante aussi sur les botnets dans un contexte mobile. Donc en fait, ce qui est essentiel hein, pour un malware qui fait partie d'un botnet, c'est de communiquer avec ce qu'on appelle un CNC. Un CNC, c'est le serveur en fait qui permet de le contrôler. Et ce qui a été évoqué, c'est le fait que les malwares dans un contexte mobile, avaient la possibilité de communiquer par SMS également. Donc, ce que font les défenseurs, en gros, c'est d'essayer de faire tomber le CNC. Et comme c'est vital pour les machines qui font partie de ce botnet de communiquer avec le CNC, bien sûr, les attaquants mettent en place plein de parades pour faire en sorte que cette connexion soit toujours persistante. Et donc, sur les mobiles, ce qui peut être impactant ou plus difficile pour les défenseurs, c'est de mettre à mal un réseau de botnet qui a la possibilité également de communiquer par SMS. Donc, communication classique, on va dire IP, et puis une communication SMS. Parce que, par exemple, je suis attaquant, je me rends compte que mon CNC est plus opérationnel sur le réseau IP, ben j'envoie un SMS à tous les mobiles pour leur dire, ben voilà, le CNC c'est plus celui-là, mais c'est un autre. Et donc ça pourrait permettre de maintenir la communication. Il y a Google aussi qui a fait une conférence intéressante sur le click fraud. Donc là en fait leur problématique c'était d'essayer de détecter ce qu'ils appellent le ghost browsing. Donc c'est un navigateur en fait qui est contrôlé par une machine et qui simule une activité humaine et qui va cliquer sur des liens pour générer sur des liens de pub. Et donc ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que les défenseurs utilisent à peu près les mêmes techniques en fait pour faire ce qu'on appelle du sandboxing, donc pour simuler de l'activité humaine et faire croire à un malware qu'il est dans un contexte utilisateur classique.
D'ailleurs, il y a une conf aussi sur les sandbox qui était assez intéressante. Oui, c'était pas complètement nouvelle, mais qui faisait un bon tour de la problématique.
Du contournement de sandbox, effectivement. C'est un peu le jeu du chat et la souris. Alors, pour rappeler peut-être aux auditeurs ce que c'est que le sandboxing, en fait, c'est ce qui permet de faire ce qu'on appelle de l'analyse dynamique. Donc, de prendre un malware, de l'exécuter dans une machine virtuelle et d'essayer de déterminer, en fait, ce que fait ce malware. Alors, bien sûr, les attaquants, eux, essayent de détecter s'ils sont dans une sandbox pour, par exemple, ne pas délivrer leur charge. Et donc, les défenseurs font ce qu'on appelle de l'anti-anti-sandboxing, les attaquants font de l'anti-anti-anti-sandboxing. Bon, toujours est-il que au niveau sandbox, quand on voit quelque chose, un malware un malware qui essaye de déterminer dans quel contexte il est, on trouve ça un peu louche. Donc, ça permet de mettre des warnings. Il y a eu une conf aussi intéressante sur un malware qui, quand on met dans le presse-papier, donc quand on copie un numéro de RIB, par exemple, eh bien, il remplace ce numéro avec le numéro de l'attaquant. Et il y a la même chose qui existe pour les adresses Bitcoin. Donc, l'idée, c'est le malware voit une adresse Bitcoin qui est mise dans le presse-papier, toc, il remplace avec son adresse à lui. Bien sûr, humainement, c'est relativement difficile de s'apercevoir du truc, on va dire, puisque et donc, si on ne fait pas très, très attention, eh bien, en fait, on colle l'adresse Bitcoin de l'attaquant. Et, donc, voilà.
Là, j'ai quand même du mal à voir quel est l'intérêt de faire ça plutôt que de voler directement la wallet Bitcoin. À partir du moment où tu peux exécuter du code sur la machine de la victime.
Ouais, mais c'était que dans le navigateur, par exemple. Enfin, il y a plein de circonstances un peu particulières.
Ouais.
Et puis le code est, à mon avis, beaucoup, beaucoup plus simple. Tu vois, c'est juste, je fais un copier-coller, quoi. Enfin, je remplace, quand je vois quelque chose qui correspond à cette regex, toc, je remplace parce que j'ai défini. Donc, à mon avis, le code, il est super, super, super simple.
Ouais, pas tellement plus simple que d'aller voler la wallet et mettre un keylogger. Hein.
Enfin... Ah, si, parce que, tu vois, dans le keylogger, tu as les aspects de communication que tu dois mettre en place. Donc, ouais. là, là sur ce malware plutôt, t'as pas du tout de communication, quoi. Le truc, il est en place, et puis voilà, quoi.
Oui, mais j'imagine quand même que l'adresse du destinataire, elle doit pouvoir être mise à jour ou des choses du genre.
Oh, pas forcément. Hein. Tu sais, ton adresse Bitcoin, c'est pas comme un CNC, là, t'as pas besoin de la changer. Hein.
Ouais, ça dépend. Enfin, tu sais, on vit dans la civilisation du patch. Hein. Si tu peux pas.
Non, mais. Non, c'est clair, mais bon.
Même les malwares ont besoin de se mettre à jour. Hein,
quand oui, tout à fait.
Tu as des gens qui sortent des rapports en expliquant toutes les failles qu'il y a dans les crypto-lockers et pourquoi on peut arriver à les déchiffrer. 48 heures après, ils sont updatés. Hein.
C'est clair. Ah, bah, c'est une industrie professionnelle. Hein. Sur le troisième jour, Dia a fait une conf intéressante, notamment sur Fastlux.
Dia, il est chez OpenDNS. Ils ont une vision intéressante sur ces sujets-là. Ouais.
Et ce troisième jour, David Sancho a fait une très belle présentation. C'est un très bon speaker.
Bon, il travaille un petit peu dans la même société que toi.
Ouais, mais c'est vrai que sa conf.
Merci de veiller au conflit d'intérêts.
Je vous invite à la regarder. Vous allez voir que c'est un très bon speaker.
Tout à fait. Et tu nous feras une proposition l'année prochaine, hein, pour faire une présentation.
je pense pas que ça sera moi qui la réalisera, mais. effectivement, je pense qu'on aura des choses aussi à dire l'année prochaine, j'espère. Oui, il y a une conf aussi intéressante sur l'analyse des logs DNS. Je ne sais pas s'il y a suffisamment de choses au niveau de l'analyse DNS, mais je pense qu'en analysant ces logs, on pourra se rendre compte de plus en plus de choses certainement. Déjà l'année dernière, il y avait comment il s'appelle, c'est Ronan, je crois, de il avait fait une conf un peu comme ça aussi, où il montrait en fait ce qu'on pouvait récupérer via l'analyse DNS. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant.
C'est des questions que se posent beaucoup d'équipes de gestion d'incidents ou de certes internes ou de SOC d'entreprise. On parle de SIEM, etc. Mais il faut vraiment savoir quoi chercher, comment le chercher, comment l'exploiter. C'est vrai que c'était assez opérationnel comme présentation. Je pense que ça a donné des idées à pas mal de participants.
Ouais, enfin, j'en ai fait un petit peu. Il y a déjà de l'analyse DNS il y a quelques années. C'est pas si évident que ça.
Ah non, c'est pas évident. Mais il est venu partager son expérience et c'est assez intéressant.
Ouais, j'ai pas vu la conf, hein, mais bon.
Le problème des. Elle est en vidéo, celle-là, donc tu peux aller voir.
Globalement, le problème, c'est les faux positifs. Enfin, le problème de tous ces trucs-là, c'est les faux positifs. Sur le DNS, je ne sais pas combien d'as de hits par jour à une entreprise, mais même si tu as un taux de 2% que tu dois analyser à la main, c'est juste pas possible, quoi.
Il parle de 25% de faux positifs au début de son parcours. Donc, son objectif, c'est de faire diminuer ça, quoi.
C'est un académique ou pas?
Non, c'est il travaille dans un CERT national, au niveau d'un pays du Moyen-Orient.
Mais il y a des choses qui peuvent être vraiment significatives. Par exemple, je regardais ce matin justement sur une analyse sandbox d'un CryptoLocker, et tu vois en fait que le malware, en quelques secondes, il te fait énormément de requêtes DNS. Justement, il fait ce dont Eric parlait, ils utilisent ce qu'on appelle du DGA, donc Domain Generation Algorithm. L'idée, c'est en fait de maintenir encore une fois une connexion avec un CNC, et donc il va essayer de communiquer avec plein de CNC. Donc il fait plein de requêtes très, très rapidement jusqu'à temps qu'il tombe sur un CNC qui lui réponde. Et donc ça, quand tu vois par exemple une machine qui te fait, je sais pas, 100 requêtes seconde DNS, tu peux te dire, bah tiens, il y a quelque chose de bizarre.
Ouais, t'as aussi des aspects de comportement, effectivement.
Non, mais je suis d'accord que si tu lances un malware et si tu lances Notepad sur ta machine, oui, tu vas pouvoir détecter le malware. Mais après, quand tu commences à regarder au niveau des logiciels d'entreprise comment ça se passe, enfin, tu vois, rien qu'un Dropbox, par exemple, qui va broadcaster sur ton réseau pour essayer de trouver, faire de la synchronisation LAN, qui va faire des mises à jour. sur le serveur, à chaque fois que tu as un fichier qui est modifié dans ta Dropbox, il y a des développeurs qui utilisent Dropbox comme système de backup, donc à chaque fois qu'ils sauvegardent un point Java, ça met à jour le Dropbox. Bon, après, je te dis pas que ça fait une résolution DNS à chaque fois, mais ça dépend de ce qu'ils mettent comme TTL sur l'enregistrement.
Là, tu peux faire du whitelisting ou identifier les comportements normaux sur ton réseau quand même.
Enfin, disons que des logiciels qui se comportent comme des malwares mais qui n'en sont pas, tu en as quand même un paquet sur un réseau d'entreprise ou même un réseau, chez un particulier.
Voilà. Ben, y a des choses qui sont quand même assez caractéristiques. Hein. Le DGA, tu vois le nombre de requêtes, tu vois aussi la tête des requêtes DNS qui sont réalisées.
Ouais, mais tu serais surpris. Hein. Moi, j'ai bossé, je sais pas si c'est encore le cas, mais il y a quelques années, j'ai bossé avec un antivirus. À chaque fois que tu lançais un binaire sur ta machine, ils faisaient une requête DNS parce qu'ils avaient un système de cloud machin. Et donc, à chaque fois que tu lançais un binaire, ils vérifiaient si le hash du binaire était connu dans le cloud ou pas. Et ils faisaient ça par une requête DNS parce que c'était un truc qui n'était jamais filtré. Donc, je veux dire, en termes de volume et en termes comment dire, d'entropie sur les requêtes, ça, c'était pas très loin d'un malware. Et c'était l'antivirus lui-même.
En tout cas, je pense qu'il y a, il y a vraiment des points à creuser sur l'analyse DNS. D'ailleurs, tiens, j'ai vu récemment un malware qui changeait la conf DNS, qui te mettait les DNS Google. Alors tu peux te dire, mais pourquoi le malware va changer la conf DNS et va mettre le DNS Google, quoi. C'est, justement, je pense que c'est en partie pour ça, pour éviter l'analyse des logs DNS. Peut-être, hein. C'est une supposition, mais...
Disons que dans ces cas-là, c'est plus toi qui les analyses, c'est quelqu'un d'autre.
Non, ça peut être effectivement une réutilisation de certaines routines aussi qu'ils ont trouvées à droite à gauche. Hein. Quand tu as des comportements similaires, des fois, c'est simplement qu'ils ont recopié des comportements que tu as ailleurs et ils ont trouvé que ça marchait mieux que de passer par un truc qui n'était pas bien configuré, par exemple, ou filtré par... le DNS de l'entreprise qui va filtrer peut-être certaines requêtes aussi. Donc, t'as plein de raisons, mais assez souvent, la bonne raison, c'est qu'ils ont simplement copié le comportement d'un autre truc.
T'es encore en train de blâmer Stack Overflow, c'est ça?
Non, mais souvent, c'est pour revenir sur une question que tu posais tout à l'heure, Nicolas, c'est pas parce qu'il y a les mêmes comportements que c'est la même famille de virus. Ça peut être simplement des gens qui ont recopié des comportements ou des bouts de code à droite à gauche. Enfin, le principe général, la réutilisation du code, mais ça a un impact effectivement sur la détection. Tu peux faire des faux positifs et détecter des choses comme étant soit malveillant à tort, soit de la mauvaise famille parce que tu as mal interprété un comportement. Donc faut avoir des infos assez riches. Le DNS peut pas suffire pour les choses les plus complexes. Par contre, il doit te permettre de trier une grosse partie de choses qui sont bien connues. Tout ce qui est DGA, etc., doit pouvoir être filtré ou en tout cas détecté par de l'analyse du DNS quand même.
Oui, tout à fait. Non, mais de toute façon, détecter les choses que tu connais déjà, trouver ce que tu cherches. Non, comment on pourrait dire ça?
Non, mais c'est déjà pas mal pour certains. Il y a aussi ça. Il y a plein d'endroits où tu as des données et personne n'en fait rien. Donc moi, je trouve ça bien qu'il y ait des gens qui fassent des choses avec les données qu'ils ont.
Ouais, t'es sûr de ça? Parce qu'il y a plein d'endroits où tu n'as juste pas de données, quoi. Enfin, quand tu fais des incident response, que tu arrives, tu dis « donnez-moi les logs » et tu te rends compte que les logs, il n'y en a aucun qui remonte à plus de 3 jours, tu dis « mais voilà ». Enfin,
ah bah ouais, dommage.
Que vous avez mis en place des procédures justement de collecte, de normalisation, d'archivage des données, ou est-ce que ça vit juste dans le syslog ou le log, l'event viewer local de la machine, et ça disparaît parce que personne ne l'a jamais eu, quoi. Enfin bon, ouais. On pourrait faire un épisode sur le big data et la sécurité.
Il y a un format aussi que j'ai beaucoup apprécié, c'est les lightning talk. Donc les lightning talk, ouais. En fait, tu peux peut-être développer, Eric.
Ouais, c'est pas une innovation, hein, c'est... On a repris le modèle du stick sans vouloir. C'est la conférence que je connais bien. On a repris le modèle des rumps du stick pour inciter les gens à improviser entre guillemets des présentations courtes sur 3 minutes, sur un projet en cours, un sujet rigolo, un petit hack, etc. Mais avec la contrainte que ça devait avoir un rapport avec les botnets, évidemment. Et on a eu donc 14 ou quelque chose comme ça, présentations qui ont été faites, dont un assez audacieux sur Radar 2, par exemple. Donc, enfin voilà, c'était assez, c'est vrai que c'était assez sympa. J'ai beaucoup aimé le résultat, quoi. J'étais un peu inquiet au départ, hein, parce que tu lances ça, tu sais pas trop. Et franchement, j'étais assez content de ce qu'ils ont fait.
Mais le format est top, hein, parce que les gens disent vont à l'essentiel, les présentateurs vont vraiment à l'essentiel, et, donc ça favorise ton attention forcément.
Mais tu sais, ça c'est une question de fond de toutes les conférences. Alors, je sais pas si c'est partout dans le monde, mais en tout cas en France, c'est comment renouveler le format, quoi. Parce qu'on vit à l'ère de Twitter maintenant. Si tu tapes une présentation d'une heure où le mec te refait l'historique d'Internet et c'est quoi un virus, et tu regardes la conf comme PH Neutral, par exemple, qui est quasiment une des plus anciennes confs de sécurité, elle s'est sabordée il y a quelques années et ils ont changé de format. Maintenant, ils sont sur un format où c'est uniquement sur invitation et si tu viens à la conf, tu dois t'engager à parler au moins 10 minutes sur n'importe quel sujet. Bon, et si c'est foireux, t'es pas réinvité l'année d'après, quoi. Donc en fait, tous les gens qui viennent à la conf, ils viennent pour écouter, mais ils viennent aussi pour contribuer. Et
pas
en
mal.
10 minutes, t'as pas le temps d'endormir l'audience, et puis bon bah tu sais que t'as un feedback, quoi. C'est-à-dire si tu fais de la merde, ben voilà, t'es viré, quoi. Non mais il y a des questions qui se posent aussi sur le voilà comment passer l'information. Si c'est pour filer une liste d'IOC, est-ce que ça vaut le coup de faire une conf, tu vois?
Ouais. Enfin, alors. Ouais, sauf si ça n'a jamais été discuté, mais là, pour le coup, tu poses une vraie question, c'est et qu'on s'est posé de l'année 1 à l'année 2, c'est comment renouveler un petit peu le format et s'assurer que on gardait l'intérêt. Donc, les Lightning Talks qu'on a introduits cette année, c'était un peu ça. Le format sur 3 jours, ça semblait plus équilibré. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? C'est un petit peu les questionnements. Donc, du coup, on a lancé un questionnaire comme l'année dernière à tous les participants pour essayer d'avoir du feedback et j'espère qu'on aura des bonnes idées pour renouveler un peu les choses. Et puis surtout, on espère renouveler en termes de thématiques. J'aimerais bien avoir un petit peu plus de présentations sur le comportement des équipes qui sont derrière. La première année, il y en avait une, hein, qui était une étude sur les forums de hackers un petit peu liés à cet univers-là. Et j'espère qu'on va avoir aussi un petit peu de variété, sortir un peu de la technique dans les confs. Voilà. Mais c'est un vrai enjeu, ça. Faire évoluer la conf.
Alors justement, l'année prochaine, votre conf sera à Paris.
Sera à Paris, ouais. On n'a pas annoncé le lieu exact encore, mais ce sera à Paris. Ce sera toujours sur 3 jours du 2 au 4 décembre 2015, donc toujours du mercredi au vendredi. Et j'espère que ce sera génial. Hein. En tout cas, ce qui est génial aussi, c'est d'organiser ce truc-là, hein, parce que quand les gens sont à peu près contents ou très contents, d'autant plus, on a eu des bons retours sur place, hein, les gens étaient vraiment très sympas et ils faisaient des bons retours. Et c'est vraiment rien qu'organiser la conf en tant que telle, c'est un vrai plaisir.
Et le feedback sur Twitter a été assez bon.
Ouais, on était c'était dynamique et vivant et les gens étaient vraiment sympas et donc on a pris un vrai plaisir à accueillir toutes ces personnes d'un peu partout.
Ouais, toute l'équipe hein, organisatrice, je sens qu'ils sont vraiment très volontaires, très impliqués.
Ouais, sur le dernier coup de bourre en plus des 3 jours là, c'est assez intense pour l'équipe. En fait, ça dure 4-5 jours hein, puisque il y a le jour d'avant pour caler les derniers trucs, et puis tous les mois avant pour préparer. En plus, un petit peu à distance, on a bossé cette année avec le Lauréat qui était notre hôte, un des rares labos qui bosse sur la sécu en France dans le monde académique, Nicolas. Et On était super bien accueillis par le lauréat, donc j'espère qu'on sera super bien accueillis l'année prochaine. Et bah Paris, on va faire une fois Paris et on va continuer de tourner dans d'autres villes en France et puis peut-être sortir un petit peu de France dans les années qui suivent si on a des propositions intéressantes.
Ouais, tu nous fais du teasing sur BotConf 2016. Hein.
2016 ou 2017, ouais, je pense qu'il y aura, d'autres choses encore. Bon, on a plein d'idées en fait. Le problème, c'est que ça demande pas mal de boulot, quoi. Et tous ceux qui sont là ont un boulot de tous les jours et.
Ouais, c'est un peu la limite des confs à base de bénévolat, quoi. Parce que quand tu compares avec des événements plus industriels comme le FIC, les Assises ou autres. Ouais.
Ouais, mais ça n'a rien à voir. On sera jamais plus de 250. Je pense que c'est une bonne jauge. Et tant qu'on y prend un vrai plaisir à l'organiser, bah tu participes à quelques organisations de conf, hein, tu l'as fait. Tant que tu prends un plaisir à le faire, on va continuer à le faire, hein. C'est pas.
Oui, mais je suis d'accord que l'objectif et le public sont pas du tout les mêmes. Mais à la fin, maintenant, il y a tellement de confs, les gens, ils ont le choix quelque part. Et donc, en termes d'organisation, la barre, elle est très haute. C'est fini, les trucs, tu peux plus faire un truc. Je me souviens la première nuit du hack, c'était, je sais plus, à 300 km de Paris, dans une grange, il y avait des tables et c'était genre une LAN party, quoi.
Bon, ça, on a à peu près évité. Justement, les gens étaient un peu surpris par le côté organisation, la bouffe et tout ça. Mais on avait appris des difficultés qu'ont rencontré les autres, ouais, en discutant avec d'autres. C'est vrai que les gens sont assez exigeants. Ils viennent de loin, ils payent un petit peu d'argent quand même. Ils attendent un petit peu de retour. Mais c'est pas très compliqué à organiser. Il y a quand même. Je sais pas moi, tu fais appel à un traiteur et si tu l'as bien choisi, il va te faire une belle prestation, quoi.
Ouais, ça c'est la version simple. Après, t'as le problème des allergies, des gens qui mangent pas ci, pas ça, le traiteur tu l'as pas goûté, enfin bon.
Voilà, il se trouve qu'on avait triché, on avait organisé une autre conf 2 mois avant, au même endroit, et on a changé de traiteur entre-temps, enfin bon.
Ouais, comme quoi, c'est pas si simple. Il y a plein
Non,
d'histoires
c'est pas si
backstage.
simple. C'est pas si simple.
Eh ben pour conclure, moi, si pouvais inciter les gens à venir à cette conf l'année prochaine, je le ferais vraiment, surtout s'ils ont en charge de défendre un système d'information, parce que la BotConf permet vraiment de mieux comprendre quelles sont les techniques des attaquants pour compromettre des systèmes, pour se maintenir en place. Et c'est vraiment, à mon avis, primordial de mieux comprendre ça pour mieux défendre son système d'information.
Moi, j'y serai très probablement l'année prochaine. Cette année, j'avais un conflit d'agenda, mais l'année
Tu
prochaine.
vas nous faire une conf, Nicolas?
Oh, bah, tu sais, j'ai rien à dire sur le sujet, moi.
Tu pourrais faire un lightning talk sur justement ces questions que tu te poses. Mais est-ce que c'est vraiment un sujet, le botnet, enfin sur tout ce qui est définition, etc. Ça pourrait être sympa.
Écoute, l'avantage des Lightning Talk, c'est que tu as besoin de prévenir la veille, c'est ça?
Exactement.
Bon, ça me laisse 367 jours pour y réfléchir.
Même pas, hein. Je crois que le jour
Ouais,
même.
jusqu'au dernier moment.
Est-ce que vous voyez d'autres choses à rajouter en conclusion?
Ben, pour conclure, c'est une vraie aventure d'organiser ce type de conférence avec une équipe super sympa qui a beaucoup bossé et rien que ça, c'est vraiment, j'en retire vraiment beaucoup, une expérience humaine quoi, au-delà de l'expérience technique. Donc, pour l'instant, je continuerai à m'investir là-dedans sans aucune difficulté, sans reculer.
Bon, bah super, en tout cas, ce fut vraiment une réussite. Longue vie à la BotConf.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Salut.